Nous reprenons l'étude de Tania à la page 186, le chapitre 4. L'Admor Zaken, dans ce début de chapitre, va souligner que l'importance attribuée au jeûne, qui lui-même constitue la substitution du korban, ou encore la tzedaka, qui elle-même constitue la substitution du jeûne, bien, ce qui constitue le gmar de la kapara, le jeûne ou la tzedaka, n'interviennent qu'après que la tshuva ait été réalisée convenablement, qu'après que l'individu soit déjà séparé d'une conduite, qu'après donc que l'individu ait réalisé convenablement la mitzvah de tshuva. Pour que nous comprenions plus profondément cette notion, l'Admor Zaken a rappelé le sens profond décrit par le Zohar de la tshuva. Il s'agit de ramener l'intégrité du Shem Havayé, c'est-à-dire le retour tachouv et le retour du et, soit inférieur pour la tshuva inférieure, soit supérieur pour la tshuva supérieure. Et enfin, l'Admor Zaken conclura ce shiur en s'étonnant sur le fait que de nombreux individus sont chayav de la peine de karet ou encore de mita bideshamaim, qui normalement ne leur permettrait pas de dépasser l'âge de 50 ou de 60 ans, et qui pourtant dépassent largement dans la sérénité ces âges fixés pourtant comme limite par la Torah. Nous reprenons l'étude dans les mots à la page 186, le chapitre 4. Ve'ulam kol aniskar le'el, et cependant tout ce qui a été mentionné plus haut, c'est-à-dire à propos des jeûnes, qui sont une substitution du korban, et qui sous certaines conditions telles que l'Admor Zaken a énoncé précédemment à la fin de chapitre 3, peuvent être remplacées par la tzedaka, d'une façon même yoter mi-chomesh, plus que le cinquième de ses propres revenus, eh bien ces jeûnes, ou les gmar akapara ou miruk anefesh l'hachem, eh bien pour terminer ce que en français est traduit par l'expiation, et mot à mot le lavage, le polissage de l'âme pour Dieu, si l'on ose s'exprimer ainsi, et cela, achar atshuva, après la tshuva. C'est cela que l'Admor Zaken vient souligner ici. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de remplacer la tshuva, le renoncement concret à la faute, par le jeûne ou par la tzedaka. La tzedaka, aussi grande soit-elle, ne doit pas faire oublier que l'essentiel de son action sera réalisé, c'est-à-dire le rétablissement d'une relation particulière d'affection entre Dieu et le juif, que si, préalablement, le juif s'est totalement débarrassé complètement de la faute, d'une attitude qui entraîne à la faute, que Moshe Mouval et elle, comme cela donc est rapporté plus haut, mais Agmara Perek Kama des Zvarim, du sein donc de l'Agmara, le premier chapitre de Zvarim, des Ola, parce que le Korban Ola qui était amené après le manquement d'une mitzvah positive, alors constitue Doron I Leahar Sheritza Apraklit Verroulé. Ce korbanola est bien un présent, un cadeau, après que l'intercesseur soit venu donc intercéder auprès du roi, afin que le roi retrouve un agrément à la présence de son sujet, afin que le roi ait bien un nachat ruar lefanav, ait bien une satisfaction à revoir son sujet, et à le voir à nouveau reprendre son service, comme s'il n'y avait pas eu de faute. Quoi qu'il en soit, le Doron, le présent, est amené après que le sujet se soit rétabli dans une situation normale. Omnam, atralat mitzvah tshuva veikara, cependant, le début de la mitzvah de tshuva est son principal, son point primordial, la shuv ad avaye, et bien de revenir vers Dieu. Et cela, Behemet ou Belev Shalem, et cela véritablement et avec un cœur entier. L'Admor Zaken va nous expliquer ce que signifie la chouve adavayé, revenir vers Dieu, c'est-à-dire rétablir l'intégrité du nom de Dieu qui a été abîmé, soit par le manquement d'une mitzvah positive du juif, soit par la transgression d'une mitzvah négative. Et soulignons les mots utilisés ici par l'Admor Zaken, Behemet ou encore Belev Shalem. Et avant de prendre l'explication que va nous donner l'Admor Zaken de ce que signifie profondément la tshuva, le retour du etataa, comprenons bien que chaque juif possède une âme divine. Cette âme divine, lorsqu'il transgresse, s'enfouit dans les clipotes, dans la sitra achara, d'où elle se trouve alors prisonnière, et la tshuva viendra libérer cette âme divine, et finalement, la divinité, dont elle constitue en quelque sorte le garant, et qu'elle véhicule. Et donc, dans les mois, Echéar, Levaer et Tev, eh bien, nous sommes obligés d'expliquer correctement, de bien expliquer, Be'achavat Abiyur, largement, Be'agdim, Mashekatu, Bezoar, Akadosh, tout d'abord en faisant précéder ce qui est écrit dans le Saint Zohar, Be'biur, Milat, Tshuva, à propos de l'explication du mot Tshuva al derer asod, d'après les secrets de la Kabbalah. tachouv et tchouva est bien donc composé de tachouv, le retour du et, à savoir etata tchouva tata. S'il s'agit du et inférieur du Shema Vayé, il s'agira alors d'une tchouva inférieure. Rappelons que la transcription des quatre lettres du Shema Vayé yudke vavke au sein des sphirotes témoigne bien que le he acharona, le dernier he, est en relation avec l'action. Alors lorsqu'il s'agit seulement du retour du he inférieur, cela sera le témoin d'une tshuva inférieure, celle qui concerne l'action principalement. Et ilaha tshuva ilaha est le he supérieur du Shema Vayé. Si celui-là est revenu, alors il s'agit d'une tshuva supérieure. Le he inférieur dans la transposition des sphirotes chez l'homme correspond à la sphira de Bina, c'est-à-dire s'il y a eu aussi un retour de la compréhension vers l'unité divine, même intellectuelle, alors il y a bien eu une tshuva supérieure. Vegam mashekatuv bezohar hakadosh bekstat mekomot she'en tshuva moelet lipogem brito umotzizera levatala. Même ce qui est rapporté, ce qui est écrit dans le Saint Zohar, dans quelques endroits, à propos du fait que même, sous-entendu, la tshuva supérieure ne peut pas être utile, ne peut pas servir, ne peut pas venir effacer celui qui a abîmé son brit, celui qui a abîmé son alliance avec Dieu, sous-entendu, et qui est venu, de façon délibérée, perdre la semence inutilement. Vehu davar tamua meod, et cela constitue une chose très étonnante. Et cela parce que chez En lecha davar omed bifne atshuva, rien, il n'existe pas de chose qui peut se tenir devant la tshuva, conformément à ce que nous enseignent nos sages, sous-entendu dans le Yerushalmi qui est repris par le Rambam. Quoi qu'il en soit, avant de rentrer dans les explications plus profondes, rappelons ce que le Rabbi lui-même nous enseigne. D'une façon très générale, la tshuva inférieure, le retour du « et » inférieur, qui est lié donc à l'attribut à la sphira de Malchut chez l'individu, est la conséquence d'un lev nishbar, d'une amertume profonde, du fait d'avoir de ressentir un cœur brisé par la faute, par l'action de la faute pour soi-même, vis-à-vis de soi-même. Alors qu'en revanche, le « et » supérieur qui marque la tshuva ilaha, qui est liée à la sphira de Bina, est marqué par une joie, par une simcha intense. Et c'est justement cette simcha intense à servir Dieu pour Dieu gratuitement qui permettra aux juifs de dévoiler les forces suffisantes lui permettant d'accéder à la hitbonenut, à la réflexion à la grandeur de Dieu. C'est-à-dire que sans cette joie, il ne sera pas possible d'accéder au niveau de tshuva ilaha. Et maintenant que nous avons étudié qu'il existe deux types de tshuva, ou deux degrés de tshuva, alors nous comprenons les mots utilisés par l'Admon HaZaken et qui nous semblaient être une répétition, Leva'er etev, bien expliqué, Be'achavat abiyur, largement. Cela semblait être pour nous une redondance, alors le père du Rabbi nous explique que chacun des groupes de mots, Leva'er etev ou Be'achavat abiyur, désigne justement un degré de la tshuva. Et même, le père du Rabbi va jusqu'à souligner que dans les mots utilisés, l'Admon HaZaken venait allusionner ces deux degrés de tshuva. Par exemple, le terme Be'achavat abiyur vient désigner la tshuva ilaha parce que, explique le père du Rabbi, il désigne bien achavat, c'est-à-dire ce qui est lié à la bina, à la sphira de bina, qui est associé dans le Zohar à la notion de rechovot anar, de largesse, des fleuves, etc., etc., c'est-à-dire de l'abondance, de la connaissance, ce qui est rachav, ou encore, explique le Zohar, au troisième puits que Yitzhak est venu creuser, qui s'appelle rechovot, et qui est lié donc à la gvura, origine de la bina. Le père du Rabbi donne de nombreuses explications, plus profondes et peut-être plus kabbalistiques, et dont je n'ai pas eu le mérite de bien saisir, mais qui toutefois sont une preuve de l'intention de l'Admon HaZaken ici. Et nous reprenons donc l'étude dans les mots. L'Admon HaZaken vient d'exprimer qu'il était très étonnant que la tshuva ne serve pas, conformément aux écrits du Zohar, à celui qui a abîmé volontairement son brit. Et cela parce que Ve'afilou, et même sous-entendu celui qui aurait transgressé l'interdiction de Avodah Zarah ve Gilou Yarayot ve Roulé, l'interdiction donc d'idolâtrie ou encore des relations interdites qui sont donc toutes deux des interdictions très graves de la Torah, où il y a le principe suivant qui s'applique, Yarek ve Al Yavor, il faut se laisser tuer mais ne pas transgresser. Encore une fois, Yarek ve Al Yavor, et pourtant, la tchouva va venir servir au pardon de telle faute. Alors comment le Zohar peut exprimer que celui qui est Bogem le Brit ne se verra pas pardonné? Ou Piresh Bereshit Chorma, et dans Reshit Chorma, il est expliqué chez Kavanat HaZohar que l'intention du Zohar chez En Moelet Tchouva Tata'a est bien de souligner que la tchouva inférieure ne va pas être utile, ne va pas servir, elle ne sera pas suffisante pour effacer la faute qui Im Tchouva Ila'a verroulé, seulement la tchouva supérieure, etc., pourra servir à effacer la faute de celui qui a abîmé son brit, celui qui aura volontairement émis de la semence en vain. Certains commentateurs expriment même l'idée que, ici, le Zohar désigne celui qui aura transgressé même de façon involontaire cette faute. Parce que même involontaire, la faute véhicule toujours une volonté très fine, qui n'est certes pas dévoilée à l'intellect parfois de l'individu, mais qui se trouve présente au sein de ses sentiments profonds. Iné Léavin Zot. Voici que pour comprendre ceci, mais at miser, un peu, comme explique le rabbi, quantitativement et qualitativement, mais at désignant la quantité et miser désignant la qualité, tsarir léagdim machem voir, mais akatou vous midivrer rabotinouzal, inyan, Akaret, Umita, Bide, Shamayim. Alors il est nécessaire de faire précéder ce qui est expliqué des écritures de nos sages, que leur souvenir soit une bénédiction pour nous, à propos du sujet du retranchement et de la mort par décret divin. Et plus précisément donc, Keshavar Avera, Shechayavim Alea Karet, lorsque un individu vient à transgresser une mitzvah pour laquelle donc il se rend coupable de retranchement, Ayamet Mamash, alors à l'époque, il mourait vraiment. L'ifné Hamishim Shana avant d'atteindre l'âge de 50 ans, et cela donc au moins à l'époque du premier temple, au moins à l'époque où la présence divine était largement dévoilée. Ou Bemita Bide Shamaim, et lorsqu'il s'agissait donc de la mort par décret du ciel, alors Met Mamash Kodem Shishim Shana, il devait mourir, il n'atteignait pas l'âge de 60 ans. Et l'Admor Hazaken va même jusqu'à illustrer cette notion, que Hanania ben Ozer, un avi, be Yeremia, comme donc Hanania, le fils de Ozer, le prophète, dans Yeremia, parce qu'il avait énoncé une névoat sheker, une fausse prophétie, et Dieu lui avait dit, voici, je te renvoie de la surface de la terre. Et suite donc à ce décret divin, il était mort. Le rabbi précise que bien que nous ne sachions pas exactement à quel âge est mort ce prophète, tout de même, Admor Hazaken rapporte cette preuve comme témoignage du mot, du terme utilisé « met mamash » vraiment. Et Admor Hazaken précise entre parenthèses ou le famim « gam mita bide shamaim nifraim l'alter » et parfois, lorsqu'il existe un décret divin de mort, alors celui-ci s'accomplit immédiatement, que Moshe Matinu Be'er Ve'onan, comme nous le trouvons rapporté dans la Torah à propos de ceux qui justement ont transgressé la faute de Motsi Zera Levatala, même si pour eux la motivation était très spirituelle, il s'agissait d'un ta'am de la Gdusha, d'aucune façon pour eux il ne s'agissait d'une faute liée à une ta'ava, et pourtant, le décret divin s'est accompli immédiatement. Vare nimtsanu bechol dor kama vekama chayve kritot umitot varichu yemehem ushnehem ushnotehem benoimim. Et voici, souligne l'Admor Hazaken, vient interroger l'Admor Hazaken, voici que dans chaque génération nous trouvons de nombreuses et nombreuses individus, personnes qui se trouvent coupables, soit de la peine de retranchement, qui imposerait donc la mort avant 50 ans, ou encore qui se trouve coupable de la peine de mort par décret du ciel, qui ne devrait pas dépasser l'âge de 60 ans, et qui pourtant ont de longs jours, ont de longues années, et de plus, sous-entendu, de longues et agréables années. En ce qui concerne l'exemple précédent de Hanania ben Azur, le rabbi s'interroge pourquoi est-ce que l'Admor Hazaken est venu nous rapporter non seulement l'exemple de Hanania ben Azur, puis l'exemple de Er Ve'onan. Alors, le rabbi explique qu'il existe toutefois une distinction entre ces deux cas. Il est vrai que Er et Onan ont été punis par décret divin immédiatement. Il est vrai aussi que Hanania ben Azur était un avi émet, était un vrai prophète. Il s'est détourné de sa voix. Il est venu annoncer une fausse prophétie pour laquelle, logiquement, au bout de 2 années, il méritait que les hommes conformément à ce qui est écrit dans la Torah, que les hommes le punissent d'une mort certaine, d'une mort en pratique. C'est-à-dire que donc dans ce cas de Hanania ben Azur, certes il s'agissait d'un décret divin, une mita qui est ordonnée par Dieu, de la Torah directement, mais dont l'application pouvait être donnée à l'homme. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le mode d'application de la mort, qu'elle soit par décret divin et par Dieu lui-même, ou par décret divin et par l'homme, quoi qu'il en soit, la mort était certaine en pratique. Alors que voici que nous trouvons dans des générations où de nombreux individus sont chayavim de karet ou encore de mita bidei shamayim. Et le rabbi vient souligner le terme utilisé ici par Admon HaZaken, parce qu'il qualifie par l'adjectif de Noam, d'agréable, les années par ceux qui sont déjà coupables de karet, de mita. Et cela explique le rabbi parce que Admon HaZaken voulait répondre à une question que nous pouvions légitimement nous poser, parce que voici qu'il est possible que ces individus passent de longues années, dépassent les 50 ou 60 ans, mais des années emplies de malheur, des années emplies de pauvreté ou emplies de souffrance. Et nous enseigne la Gemara, par exemple, à propos de celui qui est pauvre, il est kemet, il est comme un mort. Alors nous aurions pu croire que finalement, certes il dépassait les 50 et 60 ans, mais d'une vie qui, rendue très difficile, était spirituellement, était dans certains points de vue, comparable à la mort. Alors à cela, l'Admon HaZaken est bien venu préciser. Il s'agit de vie agréable, de longues années, dans le confort parfois, tant spirituel que matériel. Et ainsi, il vient bien renforcer la question. Et donc, en définitive, l'Admon HaZaken est venu souligner aujourd'hui que le jeûne n'est que la fin de la kapara. Il intervient après la tshuva. Cette tshuva, d'après son sens profond, tel que le rapporte le Zohar, est bien l'expression du retour du « et » soit « tata » soit « inférieur ». En ce qui concerne la tshuva inférieure, soit « ila » soit « supérieur ». En ce qui concerne la tshuva supérieure, c'est-à-dire que, d'une façon générale, la tshuva va rétablir l'intégrité, le dévoilement de Dieu, tant au niveau de l'individu qu'au niveau du monde où il se situe. Et enfin, l'Admon HaZaken est venu conclure ce shiur en posant la question suivante. Voici que de nombreuses personnes dans nos générations sont coupables soit de retranchement, soit de mort par décret divin, c'est-à-dire ne devraient pas dépasser l'âge de 50 ou 60 ans. Et pourtant, ces personnes passent de longues et agréables années et dépassent donc ce que la Torah avait fixé pour elles comme limite d'âge à atteindre. Enfin, pour conclure, rappelons ces quelques mots du rabbi précédent qui explique que la tshuva doit aboutir obligatoirement à l'établissement d'un seder, d'un ordre dans le service de Dieu. Celui-ci doit commencer très tôt le matin et doit se terminer tard le soir. C'est-à-dire que même celui qui est absorbé par son travail a tout de même l'obligation de fixer des shiurim, d'études de la Torah. Et souligne le rabbi, dans nos générations, fixer des gviut, des moments propices particuliers pour la réalisation des mifsaim du nasi de la génération. Et cela explique le rabbi précédent, parce que la tshuva va permettre à l'individu de tirer une vitalité très grande de la kdusha, de la sainteté. Il faudra donc la réinvestir immédiatement dans les kelim de la Torah et des mitzvot. Et le rabbi souligne, à propos de certaines bonnes décisions qu'il est difficile de réaliser, il souligne que l'habitude des chassidim était d'inscrire leurs bonnes décisions sur un petit papier qu'ils portaient sur eux, au moins les premiers temps, après avoir formulé leurs bonnes décisions, et quelquefois le matin, quelquefois dans l'après-midi, quelquefois le soir, ils sortaient de leur poche ce petit papier, le relisaient, se remémoraient leurs bonnes décisions, afin de concrètement pouvoir réaliser ce qui les menait vers une véritable tshuva, ce que l'Admon HaZaken réclame de nous.